Bonsoir, merci d'être venu nombreuses et nombreux pour écouter ce soir Yves Cusset, que nous avons le plaisir de recevoir à l'occasion de l'apparition de son livre Réflexions sur l'accueil et le droit d'asile. Yves Cusset, vous êtes philosophe, vous êtes enseignant aussi en philosophie, mais vous êtes aussi auteur, acteur, et vous avez un travail qui est un travail effectivement orienté vers la diffusion de la philosophie, comprise effectivement comme l'un des instruments essentiels, justement pour, c'est, je pense, l'un des objets de ce livre, pour comprendre le temps et ne pas se laisser simplement prendre par les questions de l'émotion ou de la réaction politique. L'idée dans ce livre sur l'accueil, c'est justement effectivement de le traiter dans un angle philosophique. C'est-à-dire de déprendre cette question, qui est une question évidemment essentielle, de la question de l'accueil, question qui est prise entre deux écueils qui, à mon avis, sont assez jumeaux, qui sont le traitement strictement affectif, réactif de cette question, et le traitement uniquement idéologique, a priori, sur la question de l'accueil. L'idée de ce livre, alors, vous le signalez évidemment, hein, c'est un livre extrêmement clair, assez bref, qui est lui-même le fruit d'un ouvrage précédent, qui était un ouvrage beaucoup plus conséquent, qui s'appelait « Prendre sa part de la misère du monde ». Évidemment, je pense que vous reviendrez sur cette phrase, parce qu'elle est essentielle dans la compréhension de votre travail. C'est un ouvrage qui articule, on va dire, une croyance et une réflexion, et qui sont aussi de la façon dont vous envisagez la philosophie, qui est, dont l'objet est probablement de sortir de deux positions spontanées par rapport à la question de l'accueil, qui serait le piège qui ne serait tendu d'un côté par une sorte d'idéalisme de l'accueil intégral et d'autre côté le réalisme. On serait obligé de devoir choisir constamment entre ces deux postures. Et justement, je pense que l'un des objets, l'une des réussites de l'ouvrage, c'est de montrer qu'à partir du moment où on fait le choix de penser philosophiquement la question de l'accueil, on essaie justement d'arriver à une finesse plus grande de l'analyse. Peut-être tout simplement pour commencer, c'est aussi la façon dont s'ouvre votre livre, vous employez l'expression de gros mots à propos de l'accueil, c'est-à-dire le travail du philosophe, c'est quand même de ne pas se laisser prendre au jeu des mots et de dire que quand il y a un mot que tout le monde emploie, c'est probablement qu'il est aussi un mot un peu impensé. Et que justement, votre travail de philosophe, c'est de s'arrêter, de prendre le temps de la réflexion et de penser ce mot d'accueil. Alors on essaiera après, dans le courant de la discussion, de déployer l'ensemble des thématiques que vous abordez dans l'ouvrage, parce que c'est une question, comme vous le dites très bien, qui vient très rapidement se mêler à des questions juridiques, avec la question évidemment de la question des droits de l'homme, la question du droit d'asile, et qu'est-ce que, là aussi, sur ces gros mots que sont les mots de droit de l'homme ou de droit d'asile, qu'est-ce que ça veut dire de le penser en philosophe? Alors peut-être pour revenir, l'ouvrage s'ouvre par un petit préambule avant le prologue, est un préambule extrêmement, extrêmement touchant, puisque au moment où vous écrivez ce livre, arrivent les attentats du 13 novembre. Et donc, vous dites dans ce petit texte introductif, effectivement, que ces attentats, d'une certaine façon, ne font qu'accroître la nécessité de ce livre.
Oui, enfin, c'est ce que j'ai pensé sur le coup, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a très vite entendu des propos de certains hommes politiques qui, sous le coup évidemment de l'émotion gigantesque qu'ont suscité ces événements, qui ont immédiatement proposé de fermer les frontières de manière étanche, et tout de suite, d'ailleurs ça s'est fait assez vite, on a rétabli en tout cas les douanes en France, mais de fermer les frontières, d'arrêter tout de suite l'afflux des réfugiés, puisque on a assez vite aussi entendu dire qu'il y avait parmi les terroristes des gens qui s'étaient fait passer pour des réfugiés, et donc sous ce prétexte, il fallait immédiatement fermer les frontières. Donc il y avait un mélange des registres qui s'est fait immédiatement, une confusion des genres qui m'a un petit peu effrayé, et je me disais au fond, j'étais en train d'écrire ça et il faudrait d'un coup s'en excuser. C'est bizarre cette collision des événements. On ne parlait que de ces questions-là, de migrants, de migration, et puis arrivent les attentats terroristes, et d'un coup, on a réglé la question, finalement. Il n'est plus question de faire une politique d'accueil, d'envisager d'ouvrir un tant soit peu les frontières, d'envisager une véritable application du droit d'asile. De toute façon, ça n'est pas possible, les questions sécuritaires prédominent, et voilà, on n'a plus remettre ça sur la table. Et pendant ce temps, les bateaux continuaient à couler. Et les enfants, on ne les voyait plus forcément en photo, mais continuaient aussi à mourir dans la mer Méditerranée avec leurs parents. Bon, alors, évidemment, c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de l'évoquer. Je ne peux pas écrire ce bouquin. J'en avais écrit une partie, arrive le 13 novembre. Je reprends mon bouquin le 14 novembre. C'était dans une situation différente. Et donc, comme c'est un essai, ce n'est pas tout à fait comme un exposé philosophique classique. Un essai, c'est aussi une intervention à un moment donné, dans le temps. Donc, c'est en rapport avec l'actualité, mais c'est une espèce d'effort relativement informel par rapport à un exposé universitaire pour penser le temps dans lequel on est impliqué et faire en sorte qu'il ne soit pas qu'un perpétuum mobile, quoi. Qu'on ne soit pas pris dans le mouvement perpétuel et qu'on ait le droit aussi, à l'intérieur même de ce mouvement, de s'arrêter un temps pour le regarder avec un tant soit peu de distance. Donc ce que j'aimerais faire là, si vous me l'autorisez, je vais essayer de présenter l'origine de cette réflexion sur l'accueil qui remonte, comme vous l'avez rappelé, finalement assez loin. Depuis, en gros, que je fais de la philosophie politique, je crois que cette question est centrale et totalement négligée par la plupart des philosophes du politique, étrangement. Je crois qu'elle est centrale aujourd'hui, on s'en rend compte quand même, et ça fait plusieurs années qu'elle l'est. Elle est politiquement centrale, mais elle est aussi philosophiquement centrale. Et donc, elle m'accompagne dans ma réflexion en philosophie politique. Donc, j'aimerais expliquer d'où ça vient. Et j'aimerais expliquer aussi rapidement les grandes thèses de l'ouvrage. Et je le ferai en évitant tout très mauvais jeu de mots. Je ne l'évite pas puisque je le ferai sans papier. Parce que, en fait, je réalise au fur et à mesure que je fais ce type d'intervention, quand on a écrit un livre, on a énormément réfléchi sur un thème, on a pris le temps d'écrire dessus. Et après, on vous demande d'en parler. C'est assez classique. Et puis, on a son topo. À côté du livre, on a le topo sur le livre officiel qui accompagne le livre et qu'on peut ainsi... C'est plus reposant, c'est normal. Quand on est sollicité par différentes librairies, institutions, etc., c'est, médias, c'est plus reposant d'avoir le même topo qu'on peut reproduire à chaque fois. Et je me suis dit, non, justement, parce que c'est un essai, au fond, ce type d'intervention, il faut que ce soit aussi des essais. Alors, ça peut être des essais complètement loupés, complètement maladroits, parce qu'on ne sait jamais trop comment on va parler quand on s'adresse à un public, quand on n'a pas pris le temps de préparer quelque chose. En même temps, je connais le thème dont je vais parler, d'accord ? Mais parce que aussi, je me dis, quand je parle comme ça de quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais sans l'avoir préparé, c'est à chaque fois différent. Et ça nourrit ma pensée, c'est-à-dire qu'il se passe des choses que je n'attendais pas et qui vont transformer parfois ma manière de voir les choses. Tout bêtement, ça m'arrive assez souvent. Et même une intervention du public, etc., j'exprime un certain nombre, je ne dirais pas de convictions dans cet ouvrage, mais comme vous m'avez dit, peut-être de croyances philosophiques. Et elles sont tout à fait modifiables. Je suis laïque, donc je crois que les croyances sont tout à fait modifiables et pas intangibles. Donc elles peuvent être en revanche argumentées, justifiées. Donc le but, ça va être de justifier là des croyances. Alors, vous avez parlé au départ de gros mots. Il n'y a pas trop de gros mots dans ce livre. Hein. C'est un livre très poli. Mais ce que j'appelle gros mots, c'est un moyen d'expliquer ce qu'est la démarche philosophique pour moi. C'est-à-dire, la démarche philosophique, ça consiste, c'est tout bête, c'est ce que faisait Socrate, quoi, à s'interroger sur les mots qu'on utilise, les mots les plus courants et surtout les mots les plus gros, c'est-à-dire des mots qui recouvrent un champ tellement large, tellement complexe, qu'il paraît étonnant d'oser les utiliser. Donc, par exemple, Socrate, il interroge ses interlocuteurs sur « Mais tu es un sophiste, tu es donc un spécialiste de la vérité. Qu'est-ce que c'est pour toi la vérité ? La vérité, c'est un gros mot. Hein. » Évidemment, un gros mot, c'est-à-dire un mot qu'on utilise comme si on savait de quoi on parlait. Comme si on savait. Alors que dès qu'on y réfléchit un tout petit peu, ça ouvre un champ d'interrogation particulièrement large. Donc voilà ce qu'est un gros mot, un mot qu'on n'a jamais pris le temps de penser mais qu'on est obligé d'utiliser au quotidien. Évidemment, l'actualité est pleine de gros mots. Ce qui fait l'actualité, ce sont ces gros mots-là. Et autre chose, aujourd'hui, c'était, je crois, le bac philo. Lisez le programme de philosophie. C'est une accumulation de gros mots. Et c'est pour ça que, forcément, ça effraie les élèves de philosophie. Comme on vous demande en une année, on vous dit, bon, alors on va parler de la raison, de la conscience, de la connaissance, de la vérité, de la pensée, de la religion, de l'inconscient. Alors, que des gros mots, il va falloir régler ce problème des gros mots en une année. Bon, voilà, la philosophie, c'est l'étonnement face à l'usage qu'on peut faire des gros mots et la tentative de rendre ces mots, peut-être prendre le temps de les rendre un tout petit peu, de les dégrossir, comme je le dis d'ailleurs dans le livre, les dégrossir. Et le mot d'accueil mérite d'être un tout petit peu dégrossi, avec une finalité, c'est-à-dire que moi je ne traite pas l'accueil, là on peut être hospitalier, on est souriant, on peut être accueillant avec vous, mais je veux dire, a priori ça va, vous n'en avez pas besoin. J'espère. Il y a toujours un moment dans la vie où on peut avoir besoin d'accueil, d'hospitalité d'autrui. Je veux dire, l'hospitalité de celui qui vous invite à dîner, du restaurateur, l'accueil au sens de ce qu'il y a, ce qu'on trouve à l'entrée de la mairie ou de je ne sais quel salon, il y a une partie accueil. Mais il n'y a pas ça aux douanes. Il manque ça. Ou dans ce qu'on appelle les hotspots, il n'y a pas un point comme il y a au salon de l'agriculture. Accueil. Et ça serait bien, ça serait pas mal. Mais parce que c'est à ça que je m'intéresse, en fait, c'est à l'accueil, évidemment, tel qu'il doit intervenir lorsque certains hommes en font la demande parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas de sol sous leurs pieds. C'est tout. Ils ont besoin, autrement dit, de ce qu'on appelle un refuge ou un asile. Donc je ne parle de l'accueil que dans ce sens-là, comme de ce qui permet à ce qu'on va appeler provisoirement un étranger, parce qu'il faut l'être pour demander un accueil, ce qui permet à un étranger d'obtenir un sol, mais un sol provisoire qu'on appellera refuge ou asile, indépendamment du droit d'asile. Là, je parle de l'accueil en général. Ce sol qu'on peut obtenir alors qu'on est un étranger et qu'on n'a pas d'autre sol, la précision est très importante, et qu'on n'a pas d'autre sol sur lequel on puisse poser ses pieds, en tout cas sans danger pour sa vie, bien ce sol-là, on peut l'appeler asile. Donc voilà, accueillir, c'est permettre à celui qui n'a pas de sol de trouver un refuge et un sol solide sous ses pieds, au moins provisoirement. C'est ça le geste d'accueillir, c'est... Et je dis dans le bouquin aussi que c'est un geste nécessairement transgressif, au sens premier du terme, puisque c'est un geste qui permet de traverser un obstacle, en l'occurrence une frontière, qui devrait vous arrêter. Autrement dit, accueillir, c'est permettre de franchir quelque chose qui devrait vous arrêter. Et c'est donner cette autorisation-là. Donc il y a une dimension transgressive au sens premier du terme, même si on peut être tout à fait respectueux de la loi, de la législation et accueillir des étrangers. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fonde ce geste transgressif ? Qu'est-ce qui fait qu'on va permettre à quelqu'un qui n'a pas de sol, qui n'en a aucun, et comme tout le monde en a besoin, parce que ça aussi c'est une base de mon étonnement philosophique, nous on a simplement l'habitude d'avoir un sol sous nos pieds. C'est une habitude quotidienne des plus évidentes. C'est même de l'ordre du privilège féodal. C'est-à-dire, comme je dis dans un spectacle humoristique, moi, je suis né en France, de parents français, comme tout le monde. Et pourtant, à mon arrivée au monde, je n'avais aucun titre de séjour. En tout cas, pas plus de titre qu'un autre à commencer séjour. J'étais tout nu, j'étais clandestin, j'étais sans papier, j'étais même tout fripé. À cause de la traversée, il faut dire que le passage est étroit et que le passeur, il va parfois au forceps. Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant au monde... sur les bords du monde, eh bien, c'est de crier pour demander l'asile, comme n'importe qui. Et au lieu de quoi, un policier en civil qui m'attendait juste à la sortie de la bouche de métro, station Placenta, m'a demandé mes papiers. Alors là, il m'a dit, dis donc, petit visqueux, ta carte d'identité, ton titre de séjour. Moi, je lui ai dit, mais attendez, moi, je ne suis encore personne, je ne sais même pas si j'ai un titre à être quelqu'un. Est-ce qu'en naissant, d'ailleurs, je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre ? Alors là, évidemment, le policier m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Mince, encore un intellectuel de gauche. » Et bon, ils m'ont quand même donné des papiers, malgré tout. C'est étonnant, j'étais personne, je naissais, on m'a donné des papiers, parce que je suis né avec un sol sous mes pieds. Voilà. Et d'autres sont nés sur un autre sol, qui n'a pas pu rester sous leurs pieds parce qu'il s'effondre, parce qu'il y a des bombes, parce qu'on n'y trouve pas à manger, pour des raisons qui ne relèvent pas nécessairement du droit d'asile, mais ils ont un sol qui s'effondre sous leurs pieds, hein, qui n'est pas suffisamment solide, et ils doivent partir, et donc ils ne disposent plus de ce qui est vraiment de l'ordre du privilège féodal, que j'exprime de manière humoristique, c'est un privilège féodal, j'ai rien demandé, moi, forcément, j'ai rien demandé. Et j'arrive et on me dit presque, finalement, en dehors de, une fois la frontière franchie et le policier en civil voilà, qui me laisse passer, et bien on me dit finalement, bienvenue, qui est le mot d'accueil par excellence, bienvenue. Bienvenue, voilà tes papiers. Genre, à 18 ans, tu seras citoyen, tout va bien. Tu auras même le droit d'avoir des titres de séjour dans d'autres pays. Tu pourras quitter ton pays. Voilà. Ce privilège-là, on l'a presque tous. Et il est extraordinaire et il faut en être soudainement expulsé. J'utilise le mot d'expulsé. Expulsé de ce privilège, pour une raison ou pour une autre, pour se rendre compte que ça en est un. Ou alors, il faut voir des gens qui ne l'ont pas. Et dont la vie est très concrètement exposée à tout moment, et alors même qu'elle est exposée, ils peuvent quand même se retrouver expulsés par les autorités françaises, eh bien, il faut voir ces gens-là aussi pour se rendre compte que c'est un privilège. Donc, l'accueil a quelque chose, je dirais, c'est ce que je dis dans l'ouvrage, de moralement presque évident. Quand je vous dis ça, l'idée qu'on est face à quelqu'un qui est en état de vulnérabilité extrême, dont la vie est exposée, et qui a besoin, pour que sa vie soit protégée, qu'on l'aide simplement à franchir un seuil qu'il n'est pas autorisé à franchir, de faire cela paraît moralement évident. Encore plus évident quand vous voyez des photos, quand on voit toutes ces embarcations, quand on voit la photo du petit Aylan dont le corps est abandonné sur la plage, la réaction morale des gens, et là l'émotion elle est légitime, il y a une sensibilité morale, il faut sortir de la réaction émotionnelle, mais l'émotion elle nous dit des choses, elle nous renseigne. Heureusement qu'il y a une émotion morale face à ça, heureusement, mais... Et on se dit, évidemment, mais on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. On ne peut pas. Enfin, c'est la base de la moralité. C'est pas qu'on les tue. On ne les tue pas, certes, mais en un sens, on peut se dire qu'on les laisse un peu mourir. Hein? En tout cas, qu'il y a une responsabilité des États européens. Parce que là, quand vous entendez Amnesty International ou la CIMAD qui disent « Mais pourquoi ne donne-t-on pas des visas ?» Ça évite d'avoir à faire appel à des passeurs. Mais bon, donc... Il peut y avoir une responsabilité dans cette mort-là. Et ce que je dis, il y a une émotion qu'on éprouve moralement, c'est ce que j'appelle la honte. La honte, c'est une émotion morale. C'est le sentiment que l'on ne parvient justement pas à répondre à un appel qui nous est lancé avec vigueur et avec nécessité. Et ne pas répondre à l'appel d'un enfant de 3 ans qui vient mourir sur la plage, oui, ça suscite la honte. Mais, et l'appel évidemment de tous les autres. Si on vient de dire parce que c'est un enfant de 3 ans, on a honte, là on pourrait avoir doublement honte de ne pas s'intéresser aux autres. Mais voilà, là cet enfant, il a servi évidemment de symbole. Donc la honte, c'est une émotion morale. Et c'est une émotion morale qui nous enjoint à responsabilité. Donc d'un point de vue moral, il est évident qu'on doit accueillir. Et si vous écoutez le pape, si vous écoutez les institutions en France, les institutions catholiques, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Soyez de bons catholiques, ouvrez les bras, venez. Ben c'est formidable, voilà une politique de l'accueil. L'Église catholique a une politique de l'accueil. Non, elle n'a pas de politique de l'accueil, l'Église catholique. Elle a un principe qui est que toute politique doit se fonder sur la morale chrétienne. Donc elle contourne le problème politique. C'est pour ça que c'est évident pour l'Église, le message. Le message, c'est, en tant qu'individu, en tant que bon chrétien, en tant qu'homme, faites preuve de charité, d'amour du prochain, ouvrez vos bras, dites bienvenue et aidez ceux qui en ont besoin. Voilà. Et là, on a un principe moral qui sert de base unique à une politique. Bon. Donc l'Église a un moyen de régler politiquement le problème de l'accueil, en disant, il n'y a pas de politique, il n'y a qu'une question morale. Mais c'est pas, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque de l'autre côté, il y a la réalité des États et du principe de souveraineté, qui dit très clairement, depuis que Michel Rocard l'a dit, et qu'il le dit maintenant sans plus du tout s'en excuser, comme si c'était devenu aussi une évidence politique cette fois-ci, on ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui est d'une autre violence symbolique que de dire ça. Bon. Donc, d'un côté, on a un discours moral qui dit « on doit impérativement », c'est le geste moral élémentaire, on doit impérativement accueillir celui qui est dans une situation de vulnérabilité extrême et qui est exposé de manière imminente à la possibilité d'une mort qu'il n'a en aucun cas mérité, quoi que ce soit, d'une mort que certains disent inutile, je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, on doit les accueillir, et de l'autre côté, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est normal parce que tout le monde, c'est personne. Dès qu'on voit quelqu'un en particulier, dès qu'on voit un enfant, une famille, des gens concrètement, des images, des visages, dès qu'on voit cela, on ne voit pas tout le monde, on ne voit pas la misère du monde. Hein. Ça n'existe pas aussi, que je fais dans mon spectacle humoristique, je parle de Monsieur la misère du monde. Monsieur la misère du monde n'existe pas, c'est un sobriquet. Quand on voit quelqu'un, on est enjoint à responsabilité. Mais en politique, on ne voit personne. En politique, on ne voit personne. On voit des masses. On voit des masses qui nous sont présentées à travers des images impersonnelles. Dans les médias, on alterne entre les images des individus qui souffrent et les images des masses qui font peur. Hein, c'est les deux émotions parallèles, la peur et la compassion qui alternent dans cette histoire-là. Si vous regardez les images dans les médias, je m'y applique assez régulièrement. C'est étonnant, c'est vraiment, il y a une alternance assez régulière des deux. Comme si on ne pouvait pas trancher entre les deux. Hein, et dès qu'il y a un peu trop de peur, on voit des masses qui arrivent, on se dit « oh là là !» Et puis on ne sait jamais, puis ils n'ont pas la même culture que nous, puis qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a tout d'un coup un « il » impersonnel et général, comme si c'était tous les mêmes. Vous vous rendez compte ? 1 million de réfugiés, c'est plus que l'agglomération de Bordeaux. Si on vous disait, évidemment, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes, on a tous les mêmes trajectoires, la même culture, le même rapport au monde. Et voilà, c'est juste aberrant de dire ça. Évidemment, toutes ces trajectoires sont différentes. Hein, et ce n'est pas une masse, les gens qui arrivent. Donc, bizarrement, politiquement, on est obligé de traiter les choses comme ça. C'est tout le monde, c'est une masse. Il y a une administration, il y a des douanes, il y a des titres de séjour qui doivent être accordés ou refusés. Et donc, ça passe par ce filtre-là. Le filtre, un, de l'État et du principe de souveraineté qui détermine une politique migratoire, qui détermine pas simplement une politique migratoire, mais qui détermine aussi qui est titulaire ou pas du ce que j'appelle le bien de l'appartenance, qui a le droit de faire partie de la communauté à laquelle nous avons le droit de faire partie par nature, ou par naturalisation. Mais bon. Qui a le droit, et ça, il le détermine souverainement, et puis par le fil donc politique, et ensuite par le fil de l'administration qui va traiter les dossiers, hein, mais les traiter, non pas personnellement, mais avec des critères qui sont, un, déterminés par la loi. Alors c'est très compliqué pour accorder le droit d'asile, hein, être menacé de persécution, qu'est-ce que ça veut dire ? Être menacé pour des raisons politiques, alors jusqu'où ça s'étend ? Être menacé donc pour sa vie et ne pas pouvoir rester donc sur le sol dont on est originaire. Donc, comment on détermine ça, ce critère-là ? Il est d'un point de vue juridique très lâche, et évidemment on s'accommode assez bien de ça quand on veut refuser d'ouvrir les frontières, on va dire le critère juridique est très lâche, et donc comme je dis aussi dans mon spectacle, on demande aux gens, excusez-moi, mais vous avez une attestation de vos persécuteurs avec la mention lue et approuvée, hein, c'est difficile d'obtenir ça. Donc il n'y a pas, même si les gens sont sans papier, de toute façon il n'y a pas de signature des persécuteurs. Donc cette signature, le choix d'y faire attention ou pas, d'accorder ce que j'appelle la présomption de bonne foi de la demande, il va dépendre d'un choix politique souverain. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce paradoxe-là entre une politique d'accueil qui dit on ne peut pas accueillir tout le monde, et un motif moral qui relève de l'évidence la plus élémentaire. C'est la question que je me pose tout bêtement dans le livre. Comment on résout ce paradoxe ? Qu'il est d'autant plus urgent de résoudre qu'il se trouve que dans nos démocraties européennes en particulier, on a prétendu dans la deuxième partie du XXe siècle, ça fait plus que ça d'un point de vue théorique, mais en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle, on a prétendu fonder la politique sur un socle, que je ne vais pas appeler moral, je vais appeler plutôt éthique, un socle éthique qui offre à tous des droits égaux et donc des formes de protection censément identiques. C'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un truc très étrange, un truc très abstrait. Hein, c'est aussi un gros mot. Les droits de l'homme, comme disait Deleuze avec virulence, il dit, c'est complètement débile, les droits de l'homme. C'est complètement débile. L'homme, ça n'existe pas. Il y a aucun personne. L'homme, c'est Joseph de Metz qui le disait déjà. Enfin bon, voilà, j'ai rencontré des Russes, des Italiens, des Français, mais l'homme, je l'ai rencontré nulle part. Et puis, c'est surtout, ça sert à pousser des cris d'orfraie, bon, voilà, en disant, mon Dieu, mais il faut respecter l'humain, l'être humain. Bon, qu'est-ce que c'est pas ça qui fait une politique, dit Deleuze. D'un point de vue politique, c'est complètement débile. Je le trouve excessif. Je le trouve excessif, c'est-à-dire que il n'y a pas de droit de l'homme dans l'absolu. C'est très difficile de dire ce à quoi l'homme en tant qu'homme a le droit. Ça va donner lieu qu'à des généralités morales, effectivement, complètement abstraites. En revanche, on peut s'interroger sur les droits de l'homme en négatif. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un, ce qu'on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un sans menacer en même temps l'humanité à laquelle il doit pouvoir prétendre. Par exemple, il y a un critère très clair des droits de l'homme qui a été établi au XXe siècle, c'est la notion juridique de crime contre l'humanité. Voir ces droits de l'homme protégés, c'est être protégé, évidemment, de la possibilité d'un crime contre l'humanité. Et c'est l'un des motifs du droit d'asile. Ce qui a fondé la Convention de Genève de 1951, hein, relative au droit d'asile, c'est évidemment l'ombre du crime contre l'humanité, qui consiste à dire... Aujourd'hui, l'homme, ce n'est pas l'homme abstrait qui est cosmopolite, qui recouvre tous les pays et qui est citoyen du monde. L'homme qu'on doit protéger, c'est celui qui risque d'être exposé dans son humanité même, qu'on va tuer parce qu'il est homme, qu'on risque de tuer parce qu'il n'est rien d'autre qu'homme. C'est ce que j'appelle dans le livre, finalement, les droits de l'homme, ça devrait être aujourd'hui les droits du « comme », du « que homme », celui qui n'est que homme. Autrement dit, bizarrement, c'est un autre paradoxe, celui qui n'est que homme, c'est celui qui n'a pas de droit. Nous, on n'est pas que homme, comme je disais tout à l'heure, je nais homme et en même temps, je nais citoyen. Je ne nais pas que homme. En revanche, si d'un jour à l'autre, parce que je fais partie d'une minorité qui est exclue en France, ça pourra arriver dans un avenir sans doute lointain, mais ça pourra à nouveau se produire, je fais partie d'une minorité qu'on doit exclure, et donc, au bout d'un moment, parce que je suis menacé, soit dans ma liberté, soit même dans ma vie, je dois quitter le pays, mais je ne trouve pas d'autres pays. Eh bien, dans ce moment d'entre-deux, où je suis forcé de quitter mon pays, je n'en ai pas d'autre où je puis être accueilli, je ne suis que homme et rien d'autre. Je n'ai plus de droit. Et pourtant, si on considère que du fait que je n'ai plus de droit, bah, je ne suis qu'un sous-homme, vous voyez bien que là, les droits de l'homme, ça n'a plus de sens. Donc c'est dans ces moments-là que les droits de l'homme doivent avoir un sens, quand on n'est plus qu'homme et rien d'autre. Ce qui est par excellence le cas de tous ceux qui se pressent à nos frontières pour demander l'asile. Ils n'ont plus sur eux que leur humanité dans le sens le plus vulnérable, ce que Hannah Arendt appelle leur humanité nue. Ils sont nus dans leur humanité, ils ne sont pas protégés par autre chose, par l'habit du droit, l'habit de droits sociaux, l'habit de droits civils, l'habit de droits politiques. Ils sont exposés dans leur humanité nue. Eh bien voilà, le problème des droits de l'homme, il est là. Il est dans comment on fait pour établir des droits de l'homme nu, des droits du comme, ou ce que j'appelle dans l'ouvrage, et je voulais en faire le titre de l'ouvrage, mais l'éditeur ne l'a pas souhaité, ce que j'appelle les droits de l'autre homme. C'est-à-dire qu'on en arrive... Dans les démocraties, la politique, c'est pas simplement les décisions d'un État souverain, c'est aussi, depuis qu'il y a une politique démocratique, c'est aussi le combat qu'on mène en commun, hein, en permanence, dans l'espace public et au-delà, pour la reconnaissance de droits. Depuis la Révolution française, c'est cela. La politique démocratique, c'est un combat permanent et à peu près interminable pour la reconnaissance de droits. Parce que dès lors qu'il y a des droits, il y a toujours en même temps des sans-droits qu'on découvre à un moment donné. Hein, c'est ce que dit Jacques Rancière. Dès lors que certains ont part, comme dit, à la communauté, dès lors qu'ils sont citoyens, ils participent à la communauté politique, c'est le principe de la citoyenneté, j'y ai part, eh bien, il y a des sans-parts. Il y a forcément des sans-parts. Et donc, ils ne peuvent même pas demander une juste distribution des parts. C'est pas le problème. Non, non, ils n'ont pas le droit de prendre part. Hein. Eh bien, de la même manière, dès lors qu'il y a des droits, il y a des sans-droits. Et la politique démocratique, c'est la revendication permanente des droits pour les sans-droits. Au départ, avec la Révolution française, ces droits-là, c'était tout simplement ce qu'on a appelé la liberté et l'égalité, évidemment, pour les citoyens, hommes, mâles, majeurs et français à l'époque. Alors justement, la question de la nationalité s'est posée à ce moment-là. Elle a été extrêmement problématique. Elle a commencé à se poser à partir de là, parce qu'on a dit, ben, y a des gens qui ont des droits humains dès lors qu'ils sont citoyens. Mais qui l'est ? Donc, on a vu, les droits de l'homme sont nés en même temps que la question de la nationalité, c'est-à-dire de la détermination des limites de la nation. Au départ, donc, c'était la liberté et l'égalité qui étaient déniées par le régime monarchique et précédemment féodal. Ensuite, on a dit, oui, la liberté et l'égalité, c'est formidable, mais certains ont, dans la lettre, droit à ces droits humains, ils y ont droit dans la lettre, mais ils ne le peuvent pas dans la réalité. Soit parce qu'ils ne sont pas assez éduqués, ça c'était la revendication de Condorcet, il faut des écoles gratuites, obligatoires pour tout le monde, sinon la liberté et l'égalité c'est bidon, ça ne donnera jamais rien, on ne peut pas penser librement, revendiquer librement, voter librement si on dépend de la tutelle intellectuelle de quelqu'un d'autre. Donc la liberté et l'égalité, ça passe par l'éducation, et ça passe aussi, deuxième génération de droits, par des droits sociaux. Quand vous travaillez 12 heures par jour, 15 heures par jour, dans des conditions épuisantes, avec un salaire de misère qui vous permet juste de reproduire votre force de travail, évidemment, la liberté et l'égalité, vous avez beau y avoir droit dans le marbre de la loi, c'est une abstraction. Donc il va falloir des droits sociaux. Ça va être la deuxième génération de droits. Puis ensuite, les droits des minorités, dont la femme a fait partie un temps, la génération des droits des minorités, et on arrive dans notre génération à ce que j'appelle la génération du droit, ce qu'on pourrait appeler le droit des étrangers, hein, et ce que je préférerais appeler les droits de l'autre homme. Jusqu'ici, on s'est battu pour les droits de l'homme, il est temps qu'on se batte pour les droits de l'autre homme, hein, de celui qui n'a justement pas a priori droit à tous ces droits de simple fait de sa situation. Au sens même topologique du terme. Il est sur le seuil, il est à la frontière, il n'a pas de sol. Donc on est dans un véritable combat politique qui va durer encore très longtemps, comme le combat pour les droits-libertés, puis pour les droits sociaux, puis pour les droits des minorités, comme ce combat-là a duré aussi très longtemps et plusieurs générations. Je crois que l'enjeu politique et démocratique d'aujourd'hui, c'est ce combat pour les droits de l'autre homme, et on voit bien qu'on y est. Il y a des gens qui se battent très concrètement sur le terrain pour ça, et qui croient que la démocratie est un enjeu. Il n'est pas né là avec la question des migrants, il n'est pas né dans les années 2000, il est né beaucoup plus tôt, dans les années 90. Quand Rocard disait « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » et qu'en même temps, un gouvernement socialiste, je crois, demandait à ce qu'on expulse les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Le mouvement, il est né à ce moment-là, où des gens justement qui n'étaient pas citoyens, des sans-papiers, ils ont dit « on n'a pas de droit, on devrait être expulsé, on est expulsable ». Pour certains, ils avaient déjà une obligation de quitter le territoire. Voilà. Bon, on n'est pas dans la légalité, et pourtant, on se saisit de l'espace public. On n'est plus citoyen que vous autres qui l'êtes par naissance. On se saisit de l'espace public et on demande ces droits-là. Et on dit, nous, on travaille à vos côtés, on vit en commun avec vous, on discute avec vous, on est engagé dans le monde commun que vous partagez. On demande à être reconnu aussi comme homme et comme citoyen. Donc, ils ont fait acte de citoyenneté sans avoir aucun droit. C'est ça, le combat démocratique pour les droits de l'autre homme. Il a commencé au début des années 90, il continue aujourd'hui, et il va prendre sans doute plus d'une génération, et avec des reculs et des avancées en permanence. Hein. Et là, aujourd'hui, on est dans une véritable polarité, étant donné le monde dans lequel, assez inquiétant dans lequel on vit, étant donné les enjeux politiques, on est vraiment dans une polarité très forte entre ceux qui n'ont plus peur de dire non seulement on ne peut pas accueillir la misère du monde, mais en plus, ce sont des gens dangereux qui ne partagent pas notre culture, avec qui on ne peut pas vivre, et donc il faut vraiment fermement leur refuser le droit d'entrer dans ce pays. Et ceux qui, dans des associations diverses, demandent tout simplement, au quotidien, en se battant, demandent l'application du droit d'asile, qui, entre parenthèses, n'est pas réellement appliqué en Europe, à la seule exception, on va le dire, de l'Allemagne. Donc il n'y a même pas de capacité, comme je le dis dans l'ouvrage, des copropriétaires, parce que c'est ça, des copropriétaires de la Maison Europe, à se mettre d'accord sur un règlement commun concernant le droit d'asile. L'Europe aujourd'hui, ce n'est plus du tout une union ni même une communauté politique, c'est une copropriété. Hein, vous savez, les copropriétés, on s'en fout généralement des autres. Hein. Dans une copropriété, on est juste, on vit dans le même endroit. Donc il faut gérer les parties communes. Et c'est tout. Et on en est là, au niveau de l'Europe, malheureusement, de l'Europe politique. Bon, j'aimerais espérer qu'on puisse envisager un au-delà du moment de la copropriété. Mais là, on en est vraiment que au niveau de l'espérance aujourd'hui, même plus que de l'espoir. L'espérance, c'est un peu plus religieux, ça suppose d'être animé par une foi supplémentaire.
Merci pour ce très éloquent exposé. Je pense peut-être que l'une des questions qui se pose, c'est que autant vous dessinez de façon extrêmement claire un horizon, pour le coup vraiment de philosophie politique, de qu'est-ce que serait une politique de l'accueil, une politique de droit d'asile. Toujours dans ces cas-là, on va dire, l'espèce d'objection spontanée, c'est comment de cette philosophie politique du droit d'asile on fait une politique. C'est-à-dire que dans ce que vous dites, on sent qu'il y a une sorte de tension entre d'un côté, et qui rejoint un peu par ailleurs la tension que vous décrivez très très bien sur la question individu-masse, sur la façon dont on perçoit, effectivement, on est plutôt de la compassion quand on a affaire à des individus et du côté de la peur quand on a affaire à des masses. Enfin, c'est comme ça que les choses sont moins manipulées, pas forcément au sens péjoratif, mais sont moins présentées médiatiquement. De la même façon, dans ce que vous proposez, on sent aussi un peu cette tension-là, au sens où il y a à la fois ce que vous rapportez au raisonnement politique individuel de chacun. Vous l'évoquiez aussi sur la question de Saint-Bernard, sur à quel moment, en tant que citoyen, on est amené à partir dans une logique qui peut être une logique qui, jusqu'à un certain point, relève de la désobéissance civile, pour dire non, c'est-à-dire le droit de l'autre homme m'impose de faire telle chose, d'accueillir telle personne, même si le droit juridique en œuvre par la loi dans mon pays ne dit pas ça. Et comment est-ce qu'on articule ça, justement, à la question de l'État, qui jusqu'à preuve du contraire reste la force politique agissante en France, et puis dans la plupart des pays, et comment on transforme cette idée philosophique justement en pratique politique conduite par un État.
Ça, c'est ce qu'on aimerait bien savoir, toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Et on se dit que le faire, ça suppose une décision souveraine issue en gros d'un État, en tout cas d'un pouvoir exécutif, quoi, au bout d'un moment. Et je suis pas convaincu de ça. J'ai évoqué les différentes générations de droits de l'homme. On n'a pas attendu que l'État fasse quelque chose pour que des droits nous soient accordés. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Des droits n'ont jamais été accordés comme ça, par générosité, par le pouvoir souverain, même démocratique, aussi démocratique soit-il. Ça ne relève pas de ça. Donc, on a de la chance d'être dans des démocraties. Donc, on peut se livrer à un combat pacifique dans l'espace public pour la revendication de ces droits. Cela, c'est une politique. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est un faire. C'est plus qu'un faire, parce que c'est un véritable faire, c'est une citoyenneté mise en action, en pratique. C'est pas une citoyenneté qui consiste à dire qu'est-ce qu'ils font, alors qu'est-ce qu'ils ont programmé, moi je suis pour ou contre le droit d'asile, qu'est-ce qu'ils ont programmé au niveau de l'État, c'est ça leur programme, bon ben je vote pour ou contre. Ça reste au niveau de la citoyenneté statutaire et pour le moins passive au fond. Donc, toutes ces associations qui agissent et qui combattent pour le droit d'asile, de manière plus ou moins informelle, ou même tous les individus qui le font, participent à une politique démocratique qui est loin d'être négligeable. qu'on peut pas. Évidemment, elle va pas régler le problème tout de suite. Mais elle relève d'une prise de responsabilité. C'est essentiel en démocratie. Une prise de responsabilité et qui a été importante dans des temps plus graves encore, où des gens font preuve de capacité d'hospitalité qui n'était pas chose courante, au nom même des droits de l'autre homme, hein, c'est la même chose. Hein. Les gens du Chambon sur Lignon qui ont protégé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont fait pour cette raison-là. Parce qu'ils considéraient que celui qui est autre, qui n'a pas les mêmes droits que nous, il n'y a aucune raison de lui refuser ces mêmes droits, sinon en le considérant comme un sous-homme. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Mais il faut ces gens-là. Il faut ces gens-là pour qu'ensuite il y ait une convention de Genève. Il faut que Hannah Arendt écrive le dernier chapitre de l'impérialisme, qui s'appelle « Les droits de l'homme et la fin de l'État-nation », où elle dit « Les droits de l'homme n'ont jamais pu être appliqués pour la raison qu'il y a une contradiction entre la souveraineté des États et l'affirmation des droits de l'homme », en gros. Elle a écrit, ce texte est l'un des textes, pour moi, majeurs de la philosophie politique contemporaine, le dernier chapitre de l'impérialisme de Hannah Arendt. C'est l'un, pour moi, l'un de ses meilleurs textes et qui résume vraiment ce problème. Et c'est elle qui dit finalement « Celui qui n'est comme... » Celui qui devrait plus que tout autre bénéficier des droits de l'homme, c'est celui-là qui n'en jouira jamais. Et donc ça, c'est l'immense paradoxe du fait que seul un État souverain peut accorder des droits. Et un État souverain, il accorde des droits à ceux pour qui il définit des critères de nationalité ou d'appartenance. Donc il faut déjà disposer du bien de l'appartenance pour pouvoir se voir allouer ensuite des droits humains. Et ça, c'est le paradoxe du principe de souveraineté qui entre en contradiction avec les droits de l'homme. Donc la démocratie a affaire avec cette contradiction-là. Elle ne peut pas la résoudre comme ça, à trancher dans ce nœud-là d'un coup. Dès qu'on regarde un peu la juridiction sur le droit d'asile, sur le droit, sur le titre de séjour, on s'en rend compte qu'on n'a pas tous des droits égaux selon qu'on est citoyen ou étranger, qu'on n'est pas tous de la même manière homme. La démocratie a pas réglé, elle est même confrontée directement à cette contradiction et elle, l'un des enjeux de la politique d'État aussi, c'est qu'à un moment elle doit les résoudre ces contradictions. Il y a des choix qui se font, il y a des choix qui vont se faire de toute évidence, selon les gouvernements, le choix ou pas d'appliquer le droit d'asile. Il est évident que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on sait très bien en gros à quoi s'attendre à ce niveau-là, il faut que le combat continue à la base de ceux qui disent « nous devons défendre les droits de l'autre homme » pour qu'il y ait ou pas un effet sur les politiques d'État, mais un effet qui ne pourra agir qu'à long terme. On est dans une espèce d'urgence, on veut des solutions immédiates aujourd'hui. Et l'État aussi, c'est-à-dire il faut des programmes. Il faut des programmes avec des résultats immédiatement évaluables. On est dans une logique comptable, de l'audit permanent Et ça déresponsabilise. Derrida disait il n'y a de responsabilité que par rapport à l'aporie, c'est-à-dire à ce qui n'a pas de solution immédiate. Sinon, il n'y a pas de responsabilité. Il y a de la technicité. Un programme, ça dit comment on doit agir, et ça fonctionne ou ça dysfonctionne. Mais il n'y a pas de question de responsabilité. On ne répond que de ce qu'on ne peut pas entièrement prévoir. Voilà. La responsabilité morale, elle commence là. Dès lors qu'il y a des conséquences qu'on ne peut pas entièrement prévoir, dès lors qu'il y a des problèmes, qu'il y a des apories, qu'il y a des difficultés. Donc, il n'y aura de responsabilité politique que si on arrête de penser en permanence qu'en termes de programme. Programme dont on doit rendre compte avant même les élections auprès de son électorat, et puis programme qu'on doit ensuite honorer étape par étape, à coup de décision, de législation, etc., de 49-3. Pour bien montrer qu'on a fait ce qu'on devait faire selon le programme prévu. Non, on a perdu ce sens de la responsabilité politique. Moi, je trouve qu'on est quand même... Et les gens le savent, c'est pour ça qu'il y a un discrédit de la classe politique. Les gens disent, ils font pas ce qu'ils ont dit, mais c'est pas vraiment ça le problème. On sent bien qu'ils sont irresponsables au sens où ils agissent au coup par coup en disant il y a un problème là, il faut trouver tout de suite une solution immédiate, il n'y a pas d'horizon politique, et il n'y a donc pas de sentiment pour nous, de responsabilité des hommes politiques. Répondre de conséquences à long terme d'un choix politique qu'on aura fait pour une société donnée. Et même si on peut toujours dire on n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde, mais de mettre en œuvre une politique du droit d'asile, eh bien, ça suppose de mettre en œuvre aussi les moyens qui vont permettre cela. mais on ne pourra évaluer cela qu'à long terme. On ne peut pas mettre les moyens avant la finalité, c'est ça le problème de l'époque. Il n'y a plus de finalité politique, puisqu'on ne parle que de budget et de moyens. Donc, moi, je n'ai jamais compris ça. Ceux qui me disent, mais ce n'est pas faisable. On ne peut pas donner un toit à tout le monde, un travail à tous ceux qui vont arriver. Bon, bah, arrêtez de faire des enfants, tout de suite. Tout de suite. Hein. C'est totalement irresponsable de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut des garanties pour ceux qui arrivent. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas un travail et un toit. Ce qu'ils demandent, c'est un sol. Ils demandent qu'on respecte un droit qui est censé être reconnu par une majorité des nations de la Terre, le droit d'asile. C'est tout. Le reste, ça n'appartient pas à l'État d'apporter des garanties. C'est rigoureusement la même chose. Je me souviens de Sarkozy qui avait dit, chose extraordinaire, on va expulser les prostituées roumaines par sollicitude pour les protéger du proxénétisme. C'est vrai, il faut les protéger, il faut les expulser. Donc c'est pareil, là, ils ne vont pas avoir un toit, ils vont se retrouver dans la rue, expulsons-les. Refusons-leur l'entrée sur le territoire. Je ne comprends pas cette logique. Je veux dire, elle me paraît délirante. Mais ça passe. Alors que ce qui paraît délirant, c'est de dire on pourrait peut-être respecter le droit d'asile aujourd'hui. C'est ça qui paraît plus délirant. Moi, du point de vue simplement intellectuel, logique, ça ne me paraît pas plus délirant. Mais voilà, on est à une époque où on met les moyens avant les fins. On manque de fin politique, ça c'est sûr. On est en manque de finalité politique. Et ceux qui se battent pour le droit d'asile ont une finalité politique. Ils ont sans doute une visée aussi cosmopolitique. Ils ont une autre vision de ce que doit être le monde commun, la manière de le partager. Ça, c'est sûr. Mais du coup, ils ont une visée, une finalité politique. Et donc, ils veulent que cette finalité, on puisse la mettre en œuvre. Et la question des moyens, elle ne peut pas précéder, elle suivra. Et ça s'est toujours passé comme ça. Les démocraties vivent du choix qui est fait pour des finalités politiques précises. Quand on n'en a plus, on crève. On crève dans les moyens dont on manque, forcément, parce que dès qu'on pose la question des moyens, c'est qu'on en manque.
Merci infiniment Yves Cusset pour cet échange, pour cette tentative d'élucidation qui demeure précise et droite, et je pense que c'est important sur ces questions-là. Merci beaucoup.
Merci à vous.